qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar.
Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères.
Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer.
Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison.
Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi. C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent et l'envie.
A chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine.
Les caves et les sirènes montant, que ce soit à Fleury ou à Fren. Le temps fait la peine et moi je traîne seul dehors.
Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres.
Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin de.
Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège.
Politiqueur dehors, petit frère emprisonné.
Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, on fera rire. Une heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle.
Parce que les parloirs sont souvent trop courts.
Pour les gars de Gide Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs.
Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Salut, bienvenue dans Casse-Muraille. Alors, Casse-Muraille, c'est une émission de radio pour parler des prisons, pour les prisonniers, les prisonnières et leurs proches. Et du coup, le but du jeu, c'est de faire entendre la voix des gens qu'on n'entend pas, la voix des gens qui sont enfermés tout le temps. Voilà, donc je vais commencer par vous donner les contacts. Donc, on est joignable toute la semaine au 07 82 98 43 59. On est joignable par mail à casse-muraille, casse-muraille2les, @riseup.net, riseup, R-I-S-E-U-P. Et sinon, c'est possible aussi de nous écrire en courrier à casse-muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Voilà. Alors, ce soir, on est quatre pour faire l'émission. Il y a Clara qui est avec moi dans le studio.
Salut.
Et il y a Lise et Gaëlle qui sont dans le bocal en train de faire la technique.
Bonjour. Salut.
Et moi, c'est Tim. Voilà. Et du coup, je vais commencer. Aujourd'hui, en fait, on voulait parler de la déportation comme arme de répression politique. Et ça fait suite, tu nous raconteras tout à l'heure, Clara, un peu ce qui s'est passé pour Christian Théin et Steve Hunet, qui sont des prisonniers kanaks qui ont été emmenés en France et que la Cour de cassation a décidé qu'ils sortaient. Bon, tu nous expliqueras ça tout à l'heure.
Carrément.
Voilà, mais du coup, ça nous a donné envie de parler un peu de cet outil répressif qu'est la déportation et qui est utilisé par l'État français. La déportation, donc, comme arme de répression politique, est utilisée depuis longtemps par l'État français. Je pense que le cas le plus connu est celui de son utilisation lors de la Commune de Paris en 1871. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la Commune, c'est une insurrection armée qui refusait de reconnaître l'autorité du gouvernement français à majorité monarchiste. La révolte a duré plusieurs semaines et s'est soldée par un bain de sang, quelques 30 000 morts et mortes et 4 500 déportés, répartis entre la Guyane et la Kanakie. Louise Michel est ainsi arrivée en Kanakie au bagne de Numbo en 1873. Ce qu'on a tendance à moins connaître, c'est l'utilisation de la déportation comme outil répressif dans les colonies françaises à l'encontre des personnes racisées. C'est ainsi que Louise Michel, dont je parlais juste avant, a été enfermée aux côtés de nombreux Kabyles dans les années 1870 en Kanakie. Ces prisonniers étaient ainsi punis pour avoir mené une insurrection contre l'État colonial. Avant cela, l'émir Abdelkader, un Algérien qui a fédéré de nombreuses tribus contre le colonisateur français dès le début de la colonisation de l'Algérie en 1830, avait aussi été déporté en 1847 en France avec toute sa famille. Dans les années 1860, des Vietnamiens ont aussi été amenés à Saintes, donc en Vendée, en attendant leur jugement pour un complot contre la conquête coloniale avant d'être envoyés en Guyane et en Guadeloupe. Mais déjà en 1802, des Guadeloupéens et des Haïtiens avaient été déportés en Corse. Je fais ici une petite parenthèse pour rappeler que ces déportations ont systématiquement été utilisées par le pouvoir français pour punir les rebelles, mais aussi pour servir ses ambitions colonisatrices. En effet, les bagnes servaient à l'expansion coloniale et au contrôle, voire au remplacement des populations locales. C'est valable en Corse dans le cas des Guadeloupéens et des Haïtiens, mais aussi en Kanaky où ce sont les communards et les Kabyles qui ont participé à la répression du soulèvement Kanak en 1878. Voilà, bon, des exemples, il y en a vraiment beaucoup. Je vais quand même en citer un dernier. Je me disais que je ne pouvais pas faire l'impasse sur la déportation massive des Algériens lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Ils ont été déportés en métropole par milliers entre 1954 et 1962. Pour résumer, la déportation coloniale s'est exercée globalement dans toutes les colonies françaises pour mater les révoltes contre le pouvoir colonial. Cet outil répressif a donc été utilisé durant tout le temps de l'Empire colonial, soit de 1802 à aujourd'hui, alors même que l'Empire est censé avoir été démantelé. Dans l'histoire plus récente, je pense aussi aux Antillais qui ont été déportés en France hexagonale, régulièrement si je puis dire. Par exemple, à Pointe-à-Pitre, en mai 67, une grève a démarré. Au bout de quelques jours, des négociations avec le patronat ont eu lieu, mais elles avortent dans la journée. La colère monte sur place, donnant lieu à des brefs caillassages contre les flics et les patrons. C'est alors que la police attaque violemment et tue trois manifestants. Les deux jours suivants donnent lieu à un massacre aveugle de la part des autorités qui redoutent en fait le début d'un mouvement insurrectionnel indépendantiste, autorités tout obnubilées qu'elles sont par la libération de l'Algérie quelques années plus tôt. Je parle de massacre parce que les gens ont été visés en pleine rue, certains ont été tués, tandis que d'autres ont été mutilés, notamment du fait de balles explosives qui ont donné lieu à des amputations. Des gens témoignent d'arrestations massives et de tabassages collectifs dans les sous-sols de la préfecture et probablement des dizaines de morts et de mortes. Bref, c'est dans ce contexte que certaines personnes sont arrêtées en tant que leaders et sont emprisonnées à Paris. Elles y sont restées jusqu'à leur procès en avril 1968, procès connu sous le nom de procès du Gong. Le Gong, ça veut dire groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe. Les peines prononcées lors de ce procès sont ridicules par rapport aux faits reprochés à la base, puisque le côté émeutier a été mis de côté dans les accusations. Cela montre que le but de cet épisode répressif était avant tout d'intimider et de mater les grévistes de mai 67, mais surtout de briser les velléités indépendantistes en Guadeloupe. Ces faibles condamnations ont été prises à l'époque pour une reconnaissance de la légitimité des revendications, mais semblent rétrospectivement, avoir surtout servi à faire oublier cet événement de la mémoire collective. Il y a eu sûrement plein d'autres exemples, plein d'autres histoires qui sont passées depuis les années 60, mais je ne les connais pas et je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. Mais je voulais revenir maintenant à un temps plus actuel. Je voulais d'abord m'arrêter sur l'histoire des grands frères. Donc ça se passe en Guadeloupe encore. En août 2021, un mouvement social s'est déclenché contre l'obligation vaccinale. Les mobilisations se déroulaient le week-end, mais peu à peu, les gens ont barré les routes et les barrages ont fini par rester, donnant lieu à des émeutes au mois de novembre-décembre. À partir de là, la réponse de l'État a été rapide, puisque le RAID et le GIGN ont été envoyés sur place. 8 personnes ont été arrêtées par ces unités répressives d'élite. Après 96 heures de garde à vue, elles ont été placées en prison, au départ en Guadeloupe. Mais quelques mois plus tard, certains des accusés ont été déportés en France. Les dossiers étaient vides, les accusations ne tenaient pas, mais les grands frères sont restés en prison. Le dernier est sorti de la prison de Moulins le 8 octobre dernier, après 2 ans et 9 mois de détention. Là encore, l'État utilise la prison pour briser un mouvement social, en désignant des leaders qui l'emprisonnent, mais à cela s'ajoute la dimension coloniale, puisque certains ont été envoyés en France hexagonale et sont ainsi coupés de leurs proches. C'est à peu près le même scénario qui s'est joué lors de l'insurrection Kanak du printemps dernier. une dizaine de leaders ont été arrêtés et déportés en Hexagone dans le but d'intimider tout le monde. Je te laisserai revenir là-dessus, Clara, comme on en a parlé au début de la chronique. En tout cas, sachez qu'il y a 10 personnes qui ont été emprisonnées en France hexagonale. Et d'ailleurs, on a entendu parler d'une personne qui serait détenue dans le centre pénitentiaire de Nantes. On a essayé de contacter cette personne, on n'a pas réussi à la voir. Mais du coup, s'il y a des gens qui la connaissent et qui veulent lui passer un salut fraternel de notre part, ce serait grave gentil. Et si cette personne veut nous contacter, nous témoigner, on rappellera les contacts tout à l'heure. Et donc pour revenir là à cette chronique sur la déportation coloniale, du coup je me suis rendu compte en préparant la chronique que ces déportations dans le cadre d'affaires politiques sont en fait la partie la plus visible d'un phénomène plus large et plus diffus. En effet, outre les gens qui émergent lors de mouvements sociaux et qui ont donc une petite visibilité médiatique, il y a tous les prisonnières et prisonniers de droit commun, comme on les appelle, qui subissent aussi, pour certains, certaines, la déportation. Mais cette déportation ne touche que les territoires d'outre-mer. Je pense par exemple aux Kanaks déportés à Haïti, alors que l'État avait besoin de places pour enfermer les insurgés au printemps dernier. Je pense aussi aux 27 prisonniers de Mayotte qui ont été déportés à La Réunion lors de la mutinerie du 28 septembre. Et je pense que cette liste pourrait être infinie. Peut-être on redonnera des exemples plus tard. Ainsi, les Corses, les Antillaises et les Antillais, les Réunionnais et les Réunionnaises, les Kanaks, les Comoriens et les Comoriennes de Mayotte, les Tahitiennes et les Tahitiens peuvent se retrouver déportés sur d'autres territoires que celui où elles vivent, avec parfois des interdictions de territoire natal plus ou moins longues. Ainsi, les liens familiaux et relationnels en général sont mis en péril par la distance et la difficulté de faire le voyage. Et lors de la libération, il faut encore trouver le moyen de payer un trajet si on ne veut pas rester coincé dans l'Hexagone, ce qui arrive régulièrement. Le fait que cette possibilité ne s'applique pas aux prisonnières et aux prisonniers, aux prisonniers métropolitains, souligne là encore le traitement spécifique que l'État français réserve aux citoyens, citoyennes d'outre-mer, conservant ainsi le colonialisme qui le caractérise depuis toujours. Dans ce contexte, nous resterons donc vigilantes et vigilants au mouvement social en cours en Martinique, et potentiellement au-delà puisque les militants martiniquais et martiniquaises sur place étendent leurs revendications à l'ensemble des territoires d'outre-mer et que du coup, peut-être que ça va se diffuser en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane. Enfin, en tout cas, ça commence à répondre, à voir ce que ça donne. En tout cas, il y a fort à parier que l'État ressorte sa rengaine habituelle de la criminalité du mouvement social et utilise là encore la déportation vers l'Hexagone pour tenter de soumettre les manifestantes et les manifestants une fois de plus. On va maintenant passer à de la musique. On va écouter Tiwoni et Bled Miki, Saniki.
Sakini.
Yeah. Tiwoni Bled Miki. Ton peuple a carrelé, babié. Il est pour nous lianer, sembler. Parole 5 et 4 fois nous rester éveillés. Pour qu'on se sent nous pas jamais enrayés. Y'en a pour mes fesses que l'on a paillé. Qui j'en veux nous vivre si nous pas essayer. Le vrai nous lianer, gâche nous effrayer. Nous ni m'a dit yo arrêté bégayer. Au sérieux, longtemps yo nous caveillé. Toujours même préfère la disque à nous gayer. Problème à dos potable car atteint tout le foyer. Je n'ai pas ni job pour pécher des loyers. Politique la salle mérite nettoyer. Peuple a aigri tous les jours yo cabadier. Révolution l'a obligé à payer. Le vrai liberté y'a nous yo qu'à sacrifier. Ça se fait pas qu'à mort. Enfin je ne peux pas si bien. Ça qui n'y t'a manqué là si ça qui bani. Ça qu'a défendre ça qui bani yo ka sali. Wa ben bon yo ka résonné en la vie. La vie, la vie. Nous bon éveil yo ici dans bon au Mali. Wa la tourne si yo zami sa pa kari. Wa ben bon yo ka résonné en la vie. La vie, la vie.
On est Guada qui connaît histoire et ses cauchemars, l'état français. Pour sa souci là, yo français, mon abo foncé, yo ka offensé. Pour d'avoir nous décidé, ouvert l'esprit, aller plus petit, l'école fermée. Pas d'avoir yo ka fait la paix, sauver jeunesse, là, les gants refermés. Tribunal, colonial, justice, minimal, victime, capable pour criminal. Ça commence à faire kidnapping, au camarade aussi, ça qui finit mal. Pas ni dissolution, magonage, casse-côte, dissolution. Rêve, sans solution, rêve, évolution, révolution.
Ça qui n'y qu'a pampié là, si ça qui bani. Ça qu'a défendre, ça qui bani, yo qu'a sali. Wapé bon, yo qu'a résonné en la vie. La vie, la vie.
moutons. Toujours les mêmes revendications, toujours les mêmes exploitations. Les mêmes enfants nous sentent de l'imitation. J'attends pour chaque descendant de la proposition. Sonner la révolution, changer constitution. Sinon nous qu'est-ce n'a pas soumission.
A pas ni j'en ni nous pas qu'on nous même nous c'est en nation. Yo a de la négation mais ça fait que j'en mets une révélation. Nous pas en temps à si la guerre encore nous j'en parti pour l'élévation. Lélélélélé, yeah.
Ça qui n'y t'a pompier là si ça qui pani. Ça qu'a défendre ça qui pani yo qu'a sali. Voir même pour nous qu'a résonné en la vie.
Et donc, c'était... Ah, bah, je t'en prie.
Tiwoni, Blaise Mikey, Sakini. Un son qui parle de un peu ce que tu... Enfin, pas de ce que tu viens de raconter, mais de ce que fait l'État colonial en Guadeloupe.
Yeah.
Pour poursuivre, je voulais, moi, préciser sur donc, la déportation comme méthode de répression, mais à propos des militants kanaks, comme tu... nous en a fait l'histoire, Tim, et t'as dit que je reviendrai dessus. Effectivement, ce qui nous a conduit à choisir le thème d'émission d'aujourd'hui, c'est que le 22 octobre, il y a la Cour de cassation, qui est donc la plus haute juridiction en France, qui s'est prononcée sur le fait que les militants kanaks soient déportés en France. Pour 5 personnes qui avaient en fait saisi la Cour d'appel dans le cadre de leur instruction, puis ensuite la Cour de cassation. Et donc, on n'a pas accès encore au texte de la décision de la Cour de cassation, mais dans les journaux, on peut voir qu'elle a annulé la décision de déportation pour 2 militants. Et on ne sait pas ce qu'il advient d'eux encore. Bon, je voulais faire de façon, commencer par un petit rappel de contexte. Donc, en Kanaky, il y a une révolte contre la colonisation depuis 1863, c'est-à-dire depuis que la colonisation de l'État français a commencé là-bas. Mais depuis ce 13 mai 2024, en réponse à une offensive de l'État français dans ses mesures coloniales, ou plutôt qui recule sur des engagements de décolonisation qu'il avait pris, il y a une intensité particulière dans le mouvement de révolte en Kanaky. Donc il y a des barrages autour de Nouméa, des entreprises qui sont incendiées, et le 14 mai, il y a une mutinerie qui a commencé à la prison de Camp Est en Kanaky. Évidemment, cette révolte a été fortement réprimée. Donc, il y a un état d'urgence qui a été mis en place, un couvre-feu, une désassignation à résidence qui ont été distribuées et des saisies des armes des révoltés, des personnes qui s'organisent sur les barrages notamment, et plus de 1300 arrestations. Ces arrestations et toutes ces mesures de répression, elles n'ont pas concerné les miliciens colons sur place, qui sont plutôt de même organisation avec la police française sur place. Donc depuis les 1300 arrestations, et même avant, il me semble, le camp Est, qui est la prison de Nouméa, est saturé. Et donc, il y a des personnes qui ont été déportées de Nouméa vers les prisons hexagonales. On pense qu'il y a eu des déportations bien avant, mais le 23 juin 2024, il y a la déportation de 10 personnes qui étaient désignées comme leaders du mouvement qui a été annoncée. Et donc la déportation, ça veut dire là un transfert à 17 000 km de chez soi.
Ouais, juste avant ça, il y a la déportation. Enfin, il y a eu la volonté de faire de la place en prison et du coup de déporter des prisonniers qui n'avaient rien à voir avec l'insurrection vers Tahiti pour faire de la place, rentrer les insurgés dans la prison et finalement renforcer cette répression en environ des prisonniers dans l'Hexagone.
C'est ça. Mmh. Vers Tahiti et vers l'Hexagone aussi déjà.
Mmh. Ok.
Pardon. Non, c'est une précision intéressante. Le transfert du coup, comme tu racontais un peu, il est utilisé déjà dans les prisons de l'Hexagone pour éclater les organisations collectives. Donc, par exemple, pendant le confinement, quand il y a eu une mutinerie à Uzerche,
en 2020, les personnes, elles ont été transférées un peu dans toutes les prisons de l'Hexagone.
C'est vrai, oui.
À Nantes, entre autres, mais aussi, il me semble, à Lille, à Paris, à Nîmes, partout. Donc, c'est déjà un outil de l'administration pénitentiaire qui l'utilise pour éclater les personnes qui s'organisent. Mais donc là, les transferts dont on parle, donc, qui sont à 17 000 km de là où les gens ils habitent, c'est des transferts qui ont une connotation particulière, une connotation coloniale, puisque la peine de déportation, elle a été abolie dans le code pénal en France en 1960. Et que donc là, l'État français en fait se sert du fait qu'il administre des prisons aux quatre coins de la planète pour dire que ce sont des transferts, mais en fait, ce sont des déportations, puisque les gens ils changent de pays. Mmh. Pas administrativement, mais
et surtout
géographiquement.
Que, ben aussi, ça fait suite des fois à des interdictions de territoire. Par exemple, des gens en Guadeloupe qui sont interdits du territoire guadeloupéen pendant 2 ans, 5 ans, qui se retrouvent dans des prisons ici en métropole, alors que ça ne peut pas arriver à des métropolitains et des métropolitaines. Enfin, en fait, quelqu'un de Lyon ne peut pas être envoyé à la prison de Guadeloupe parce qu'il est interdit de territoire lyonnais.
En tout cas, ça n'arrive jamais.
Mais normalement, ce n'est pas censé arriver non plus.
Oui, c'est ça. Et pour se rendre compte, en fait, l'administration pénitentiaire en France, elle est organisée par DISP, donc des directions interrégionales.
Services pénitentiaires.
Merci. Donc ici, à Nantes, c'est la DISP qui est à Rennes, du Grand Ouest. C'est comme, je sais pas, c'est comme les préfectures, un peu, c'est le même fonctionnement. C'est la direction de l'administration pénitentiaire qui est centralisée, qui s'organise par région. Et donc, il y a une DISP qui est la DISP SMPOM, donc c'est la DISP Mission Outre-mer, et donc qui administre des prisons en Polynésie, à La Réunion, en Guadeloupe, à Bemao en particulier. Il y a une grève des matons en ce moment, donc on pense bien aux prisonniers, aux prisonnières, à leurs proches. En Martinique.
À Mayotte. En Canaries. Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna. Enfin bref, en fait, partout, quoi. C'est un peu un truc de ouf de se dire que l'administration pénitentiaire française, elle administre des prisons un peu partout sur la planète comme ça. Mais bon, bref.
Et du coup, en parlant de déportation et de colonies françaises, ça me fait penser à une actualité. Le mois dernier, à la prison de Magicavo, pour je prononce mal, à Mayotte, il y a eu une révolte avec une prise d'otage qui a duré que 3 heures parce qu'ils ont envoyé le GIGN tout de suite. Et en fait, suite à cette révolte, il y a eu un mouvement des matons assez fort. Ils ont refusé de reprendre leur poste pendant presque 2 jours. Et dans leur demande, il y avait plus de moyens, plus de matons, la nouvelle prison qui a été promise par Dupond-Moretti en 2022. Et surtout, il y avait la demande du transfert des meneurs de cette révolte, donc de ceux qu'ils ont identifiés comme meneurs ou tous ceux qui les gênent. Et donc, ils demandaient un transfert en métropole. Et assez vite, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Ils ont obtenu des renforts de La Réunion. Et ils ont obtenu le transfert de 27 détenus, 27 prisonniers dans les prisons réunionnaises. Donc, je crois qu'il y en avait 20 au port.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, ils ont obtenu ce premier transfert dans les prisons réunionnaises. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait, ils demandent transfert en métropole aussi. Et les prisons réunionnaises, enfin, l'AP. À La Réunion, les matons de La Réunion demandent, du coup, en contrepartie, eux aussi des transferts et plus de moyens parce qu'eux aussi ils seraient, auraient des prisons surpeuplées, tout ça, et ça ne s'arrête pas et c'est punitif. Voilà, voilà.
C'est l'État qui enferme, c'est l'État qui fait que les prisons sont surpeuplées et c'est les prisonniers qu'on punit. Logique.
Logique.
Oui, et puis c'est punir, c'est empêcher toute organisation, tout mouvement de contestation. C'est aussi suite à cette révolte, en fait, il y a eu des comparaisons immédiates, il y en a eu plein, et il y a eu du coup des délais qui ont été demandés. Enfin, ces transferts, ça va paralyser tout ça, et c'est vraiment la galère pour les personnes à l'intérieur. C'est tout ce que vous disiez avant. Et puis aussi à Mayotte, juste pour rappeler, les déportations, c'est beaucoup les personnes sans papier. À Mayotte, il y a des cras qui sont horribles, et il y a énormément de personnes qui sont renvoyées sur les îles des Comores tous les jours.
Yes. Et du coup, pour revenir sur les militantes kanak pour la libération enfermées à Caen-Est, enfin, qui étaient enfermées à Caen-Est et qui ont été déportées dans les prisons hexagonales de l'administration pénitentiaire française, il y a deux militantes qui ont pu sortir de prison. Elles n'ont pas pour autant été libérées puisqu'elles sont assignées à résidence en France depuis cet été. Et donc en France, j'entends la France hexagonale.
Donc, alors qu'elles habitent en Kanaky, elles sont assignées à résidence en France hexagonale.
Ah voilà.
Logique encore.
Ouais. Démerde-toi. Et donc comme je le disais en début de chronique, ce qui nous pousse à parler de ça, c'est que la Cour de cassation elle a été saisie par 5 militants militantes pour faire annuler leur transfert. Elle s'est prononcée seulement pour 2 et l'a annulée. Mais évidemment, quand elle annule la décision de déportation de ces 2 militants, c'est pas pour dire c'est de la déportation, attention, ça a été interdit, aboli du code pénal depuis 1960 et ça nous paraît pas juste. Elle se base simplement sur les droits de la défense parce que là, ce qui est particulier, enfin, on le comprenait un peu dans ta chronique historique, il y a des prisonniers dits de droit commun qui vont être transférés pour faire leur peine en France hexagonale. Et souvent, dans le cadre de mouvements sociaux, quand c'est pour briser les mouvements, c'est dans le cadre de détention provisoire parce qu'il y a une enquête en cours, enfin une instruction en cours pour juger les gens plus tard. Et donc là, la Cour de cassation, elle s'appuie là-dessus pour dire c'est contraire au droit de leur défense, puisque dans le cadre de l'instruction, les avocats n'ont pas pu se prononcer sur le fait qu'ils soient transférés de Camp Est. Voilà. Donc, okay. Bon, ce n'est pas une décision révolutionnaire de la Cour de cassation. Mmh. De toute façon, on n'en attendait pas tant des juges. Mmh. Et pour finir, je voulais juste parler vite fait du fait que le groupe anti-REP de Solidarité Kanaky a fait une petite brochure à destination des proches de personnes déportées pour leur donner des outils et les premiers réflexes à faire. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site de solidaritékanaky.fr. Vous pouvez joindre ce groupe anti-REP au 07 56 91 79 07. 07 56 91 79 07. Et donc, ce qu'elle propose, je vais vous lire un bout de la brochure pour le dire, puisqu'elles le disent bien mieux que moi. Nous pourrons vous apporter un soutien pratique, juridique et matériel. Nous savons à quel point il est difficile d'être confronté à la déportation d'un ou une proche incarcérée. C'est pour cela que nous vous proposons cette aide pour vous épauler selon nos moyens, à localiser votre proche, à faciliter le contact avec lui, elle, à trouver un ou une nouvelle avocate si besoin, de lui envoyer du courrier pour lui apporter de la force, de vous aider à vous organiser pour les visites, le linge, les mandats. Toutefois, si vous prévoyez de venir en France pour rendre visite à votre proche incarcéré, organisez à l'avance votre voyage, car nos moyens sont limités. Voilà, donc en gros, ce qu'elle propose comme support matériel. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous êtes concerné au 07 56 91 79 07. Et comme mot de la fin, je voulais dire force à la personne qui a été déportée au centre pénitentiaire de Nantes, si jamais elle nous entend.
Et force à toutes les Kanaks qui sont en révolte contre cet État colonial.
Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appelle et SMS au 07 82 98 43 59.
Maintenant, je voulais vous parler rapidement. Parce que on n'a plus beaucoup de temps. Déjà, ça passe super vite, en fait, une demi-heure. Je voulais parler rapidement d'une grève de la faim qui a commencé mardi, donc le 26 octobre dernier, mardi de cette semaine, en fait, il y a 3 jours. Du coup, il y a 4 personnes qui sont mises en grève de la faim au CRA de Marseille, puisque, en fait, ils se sont fait piéger par un média d'extrême droite. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un député facho, enfin, un pote à Zemmour, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais on s'en fout. Du coup, il est rentré dans le CRA, il est rentré avec un journaliste. Le journaliste s'est fait passer pour un avocat. Donc, il a abordé les gens comme s'il était avocat et du coup, il les a fait parler. Sauf qu'en fait, ce mec, c'est un faf qui a un média de faf et il a publié une vidéo de 25 minutes sur YouTube où on voit les gens, pas masqués, en train de raconter leurs histoires. Voilà. Et il déforme toute la réalité. Il va jusqu'à parler d'images prises dans cet hôtel de migrants qui est le centre de rétention administrative.
Et bref, il dégoûte, quoi.
Il dégoûte, ouais. Voilà, et du coup, en fait, les gens, c'est une caméra cachée, donc ils n'ont pas su qu'ils étaient filmés. Il y a aussi des employés du CRA qui sont filmés, qui disent des trucs racistes, mais eux, ils sont floutés. Mais les gens qui parlent, en fait, n'étaient pas floutés. Et ce qui fait qu'il y en a, en fait, les gens ont été prévenus par leur famille, qui ont vu les vidéos sur YouTube, et qui ne savaient pas forcément que le proche, que la personne était emprisonnée dans le CRA. En fait, il y a des gens, ils disent pas quoi, pour pas inquiéter, pour pas... Voilà. Et du coup, en fait, ils ont découvert que leur pote, enfin, que leur proche était en tôle, en centre de rétention.
Ouais.
Voilà.
Oui, mais aussi, ce qui est vraiment dégueulasse dans cette histoire, c'est que c'est justement ça qui justifie que les personnes retenues en CRA n'ont pas le droit d'avoir de téléphone, alors qu'elles n'ont pas forcément l'intention de filmer, mais juste, comme il y a des caméras sur les téléphones, on les empêche d'avoir des téléphones parce que peut-être elles pourraient filmer et peut-être ça pourrait mettre en danger la vie privée des autres personnes qui sont enfermées en CRA. Et toute l'année, les gens, ils sont privés de leur téléphone, ils sont privés de communiquer. Et à n'importe quand, il y a un député facho qui se promène et lui, il filme en caméra cachée. Les gens ne sont pas au courant qu'ils sont filmés. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse.
Et du coup, ils ont réagi, les prisonniers du CRA ?
Et bah, du coup, là, ils sont en grève de la faim quoi, depuis mardi. Enfin, en tout cas, quatre d'entre eux qui apparaissent dans les vidéos, qui apparaissent longtemps et tout... Et qui veulent bah, du coup dénoncer. Enfin, en plus le fait que en tant que prisonniers, ils n'ont pas accès aux médias, et en tant que étrangers, ils n'ont pas accès aux médias. Enfin, ou en tout cas, ils sont stigmatisés dans les médias en permanence. On leur laisse jamais la parole. Ils sont infériorisés, invalidés, machin. Et du coup, d'un coup, les FAF, ils les filment, ils se foutent de leur gueule. Et ils ont le droit. Enfin, eux, ils arrivent à faire sortir ce truc-là. Donc les médias reprennent ce truc-là.
Et on va bientôt finir. Je vais juste faire un petit agenda avant pour dire que lundi à 19h sur Prune, il y a Angle Mort, une émission d'Isonomia. Et sinon, à Nantes, samedi à 14h à Miroir d'eau, il y a un rassemblement anti-CRA. N'hésitez pas à venir. Puis à 15h, il y a une marche en mémoire des victimes de génocide organisée par Urgence Palestine Nantes avec un appel à venir en noir. Et à Marseille, justement, le 9 novembre, il y a un rassemblement devant la prison des Baumettes à 15h30 contre la répression, les prisons et en solidarité avec les prisonnières, prisonniers.
Et moi, je voulais passer une petite info. J'ose même pas dire que c'est une info positive, hein, mais quand même, cette année, il y a André Olivier qui est sorti de prison à l'âge de 81 ans. Donc André Olivier, c'est un des fondateurs du groupe de lutte armée Action Directe qui était actif dans les années 80. Le groupe Action Directe a multiplié les attaques contre l'État et le patronat, assassinats politiques et attentats à la bombe. Ils ont assassiné le PDG de Renault, fait exploser un bureau secret des services de renseignement et mitraillé la façade de l'ancêtre du MEDEF. Voilà, ça, c'est quelques exemples. Hein. Ils ont fait plus de 80 actions comme ça, armées. André Olivier a passé 38 ans en prison et est maintenant placé sous bracelet électronique avec interdiction de s'exprimer publiquement. C'est la fin de cette info.
Ok. Alors avant de se quitter, merci pour toutes ces chroniques. Je voulais rappeler les contacts. Donc notre téléphone 07 82 98 43 59. Notre adresse postale Casse-Muraille chez B17 au 17 rue Paul Bellamy 44000 Nantes. Et notre mail casse-muraille@riseup.net. Et on le redit encore une fois. Enfin, nous, cette émission, elle sert à diffuser la parole de l'intérieur. En attendant, nous, on diffuse des infos, on essaie de faire circuler des trucs qu'on voit qui sortent de l'intérieur et tout ça. Mais le but du jeu, c'est aussi de se saisir de cette émission. Du coup, s'il y a des gens, si vous êtes en prison, que vous nous écoutez, contactez, enfin, et que vous avez envie de témoigner, que vous avez envie de faire sortir des trucs aussi de la tôle, contactez-nous. Si vous avez des proches en prison, enfin, le but de l'émission, c'est aussi de pouvoir faire passer les dédicaces. D'envoyer un morceau de musique, de laisser un message qu'on peut diffuser et tout. N'hésitez pas, cette émission est là pour ça.
Carrément.
Et sinon, il n'y a plus qu'à dire à la semaine prochaine.
Ouais, ciao.
Au revoir, ouais, à la semaine prochaine.
Toutes les personnes qui sont enfermées, qui nous écoutent.
Force à vous. Des bisous.
Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.